Alors, le fascisme, on va le préciser parce qu'on a qualifié de beaucoup de choses de fascistes et il est bon de le préciser un peu. Moi, personnellement, je pense que certains d'entre vous me connaissent, je suis déjà venue ici, vous voyez. Donc, j'ai été une jeune résistante, j'ai été déportée et depuis, j'ai fait pas mal d'études. Donc, à la Ligue des droits de l'homme, il y avait la commission d'extrême droite et j'avais écrit un livre. J'ai fait plusieurs livres sur le sujet, vous voyez. Donc celui-là, je le revis ces jours-ci. Toute la partie historique reste valable. On le trouve en bibliothèque, il est épuisé. Enfin, c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps. Fascisme, nazisme, etc. Et atteinte aux droits de l'homme et les répétitions du crime contre l'humanité. J'ai beaucoup suivi après Nuremberg, vous voyez, le procès de Nuremberg, la définition du crime contre l'humanité qui existait avant, qui existait sous le nazisme et qui existe depuis. Alors pour moi, c'est quelque chose de très central, cette façon de regarder l'autre comme celui qui est exclu, etc. Enfin, on va revenir dans les détails. Alors, je voudrais d'abord partir d'une définition parce qu'on appelle fasciste beaucoup de choses. C'est essentiellement le régime de Mussolini. Pour résumer, c'est un régime établi en Italie de 1922 à 1945. Il est fondé sur la dictature d'un parti unique, l'exaltation nationaliste et le corporatisme, ce qui est le plus spécifique chez Mussolini. Et alors, il y a deux mots qu'il faut aussi préciser, nazisme et totalitarisme. Actuellement, on développe pas mal le thème des totalitarismes. Et je dois dire, je suis un peu inquiète de voir que le Parlement européen, après une décision, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de faire un grand colloque, de réunir sur les deux totalitarismes, c'est-à-dire staliniens et hitlériens, et de prendre une date en août prochain, il voudrait faire le colloque, mais on est en train d'essayer de le barrer. C'est la date du pacte germano-soviétique. Je trouve que c'est quelque chose de très dangereux. Et demain, nous avons une réunion à la Fondation pour la mémoire de la déportation avec le conseil scientifique. On va faire un texte de protestation parce qu'il y a des amalgames vraiment actuellement très inquiétants. Bon. Alors, ceci dit, revenons au sujet d'aujourd'hui. Le nazisme. Nazisme, autrement dit, national-socialisme, c'est un mouvement national et raciste, avec une particularité, l'antisémitisme, qui est extrêmement fort, qui a été beaucoup moins fort chez Mussolini, dont la doctrine exposée par Adolf Hitler dans Mein Kampf, en 1925-26, a servi d'idéologie à l'Allemagne de 33 à 45. Et alors cette idéologie, on y reviendra parce que elle est pseudo-scientifique. Il y a des théories eugénisme, etc. J'y reviendrai après, qui sont devenues les théories d'un parti national-socialisme et sur lequel s'est appuyé un régime et le nazisme lui-même. On y reviendra. Bon. Alors, rappelez, fondé en 1920 à Munich, le parti national-socialiste domina l'Allemagne de 1933, au moment de l'accession de Hitler au pouvoir, à 1945. Il imposera un régime reposant sur la dictature du Führer, l'embrigadement des masses, l'expansion du Grand Reich, qui devait durer 1000 ans et s'attendre à toute l'Europe, le terrorisme d'État avec l'ESS, la Gestapo pour agent et l'extermination des Juifs et des Tziganes. Le totalitarisme, c'est un système politique caractérisé par la soumission complète des existences individuelles à un ordre collectif qui fait régner un pouvoir dictatorial. Il y a fusion des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, un parti unique, une idéologie hégémonique, avec mobilisation des masses, contrôle policier, répression, élimination des catégories de la population désignées comme bouc émissaire. Voilà des données de base sur ce totalitarisme qui est un terme actuellement, donc qui risque d'être utilisé de plus en plus. Alors revenons aux années 30. Qu'est-ce qui se passe dans les années 30 ? L'Europe est parcourue par des hommes en chemise noire, brune, bleue, qui acclament leur Führer, leur Dulce, leur Caudillo. Dans les régimes qu'ils réussissent souvent à mettre en place, la police et la milice font régner la terreur. La pensée est unique. Le pluralisme est éliminé, car il constituerait une menace pour l'unité nationale. Et on va apprendre la haine de l'autre différent. La jeunesse est endoctrinée et on lui inculte le culte de la force. Alors, si on regarde qu'est-ce qui se passe en Europe en cette période, on peut dire qu'en Europe et en Occident, seule la France, le Royaume-Uni, les États de l'Europe du Nord, la Belgique, les Pays-Bas et la Tchécoslovaquie demeurent des États qui bénéficient d'un régime parlementaire pluraliste. L'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, l'Espagne franquiste, le Portugal de Salazar sont des régimes qualifiés de fascisme au sens large du terme. Alors on a étudié beaucoup ces fascistes et ils ont des variantes dans chaque pays. On peut dire en général, le caractère le plus général du fascisme, c'est un régime réactionnaire de masse, donc qui s'appuie sur un parti unique, sur la violence et qui installe une dictature. Il est ultranationaliste, xénophobe, raciste. Mais il se présente comme tantôt révolutionnaire, tantôt conservateur. Il est soi-disant populaire et social. Chacun de ces régimes a des particularités. Par exemple, l'Espagne s'appuie beaucoup sur la religion, les évêques, etc. Un peu l'Italie reste aussi très catholique. Ce n'est pas le cas pour l'Allemagne. Ce qui est commun, c'est un rejet complet du principe de la Révolution française et des principes de 1789, de la liberté, des principes liberté, égalité, fraternité. Et Mussolini, le premier, en 1922, il déclare « Le siècle du fascisme verra la fin du travail intellectuel, de ces intellectuels qui sont inféconds et qui sont une menace pour la nation. » Et il ajoute, en 1926, « Nous représentons l'antithèse des immortels principes de 1789. » Goebbels, pour sa part, écrit dans son livre « La révolution des Allemands » L'an 89 sera rayé de l'histoire. Et Gregor Strasser, en 1932, nous voulons détruire l'immorale idéologie de la Révolution française. Ce thème est un leitmotiv des grands prêches de Nuremberg. On pourrait regrouper ces fascistes-là en disant que ce sont tous des anti-89. Opposé à de tels principes. Mais il y a d'autres pays en Europe qui suivent de façon moins extrême et variée dans toute l'Europe, dans les pays où la démocratie n'était pas encore solidement installée. En Pologne, Piłsudski entreprend le 12 mai 26 une marche sur Varsovie avec 3 régiments. Il prend le pouvoir et installe une dictature qui maintient seulement les formes parlementaires. Au Portugal, à la même époque, se produit un coup d'État militaire avec une marche sur Lisbonne. Après 2 ans d'un directoire militaire, Oliveira Salazar, ministre des Finances, instaure une dictature, forme de fascisme qui va s'appuyer en priorité sur l'Église catholique. En 1929, en Yougoslavie, le roi Alexandre renvoie le Parlement. Il suspend la Constitution et il installe un gouvernement dictatorial. Dans les trois États baltes, s'instaurent aussi des régimes extra-constitutionnels. En 1934, en Autriche, les sociodémocrates, Mgr Sadelet Dollfuss, instaurent un régime clérical et réactionnaire. En 1938, en Roumanie, le roi Carol charge le patriarche de l'Église roumaine de former un gouvernement. Tous les partis sont dissous. En Hongrie, en Bulgarie, en Slovaquie, on assiste à des révolutions assez semblables. Tous ces États ne connaissent pas la démocratie durant cette période qui précède la guerre. En 1936, en Grèce, le général Metaxas impose une dictature militaire avec l'accord du roi. Vous voyez donc que c'est un mouvement fascisant, fasciste, qui touche toute l'Europe. Alors, dans ces dictatures, les mouvements fascistes vont trouver un terrain favorable. Par exemple, en Roumanie, la garde de fer est une milice antisémite violente. En Croatie, on a les Ustaši de Pavlević, qui est proche, ainsi qu'en Hongrie, les croix fléchées. Ils se donnent des groupes armés durs et qui vont être proches après du système nazi au moment où la guerre va se déclencher. La Hongrie, donc la Roumanie, la Bulgarie vont être des alliés d'Hitler et de Mussolini. L'Espagne, c'est un cas un peu particulier. Elle demeure neutre, mais elle garde une sympathie marquée pour le Reich, qui va donner des troupes, qui, en fournissant des armes aux troupes de Franco, avait permis sa victoire sur les forces républicaines. Vous savez, l'aviation nazie participait. C'est encore une autre histoire. En Europe occidentale, dans les démocraties, le fascisme a aussi des représentants. En Norvège, par exemple, Quisling est un admirateur d'Hitler et il a fondé un parti nationaliste. Porté au pouvoir par les nazis pendant l'occupation allemande, le premier résultat fut le départ pour Londres du roi Haakon et les Norvégiens ont considéré que la légitimité était à Londres. Mais le parti était bien présent. En Hollande, en 1931, Mussert avait créé un mouvement national-socialiste. En Belgique, c'est De Grel qui tient ce rôle. De Grel a continué, d'ailleurs après la guerre, réfugié en Espagne, à diffuser des documents et à recréer des petits groupes néo-nazis. À part le cas de Quisling, l'occupant a préféré se mettre en place, se soutenir les côtés résistants et l'opinion était beaucoup plus proche pour la résistance. Et alors en France, Pétain plutôt que Laval, Laval que Doriot, en France le roi Léopold que De Grel, en Belgique, etc. Les leaders de ces mouvements s'engagent dans les SS et vont y former des unités. En France, la France est le seul pays européen qui avait évité l'installation d'un fascisme ou d'un régime dictatorial. Mais il existait un vieux courant conservateur, réactionnaire, une extrême droite nationaliste, xénophobe, antisémite, qui avait échoué pour ses tentatives de prendre le pouvoir durant les années 30. Et elle avait pris sa revanche sous Vichy. On peut dire qu'il a existé en France, dès la fin du 19e siècle, des penseurs conservateurs, réactionnaires, groupés sous le titre que j'appelle les anti-89. Et ils ont été les inspirateurs des mouvements fascistes. Ce vieux fond perdure alors que la France connaît des poussées paroxystiques et nationalistes populaires. On rappelle ici l'affaire Dreyfus. Vous vous souvenez de l'affaire Dreyfus, je pense que vous êtes tous au courant. Les réactionnaires antisémites se déchaînent. Je rappelle que le 22 décembre 1894, le Conseil de guerre condamne unanimement le capitaine à la déportation à vie. Le 13 janvier 1898, Zola publie la lettre J'accuse dans l'Aurore, le journal de Clémenceau. Et à ce moment-là, un groupe d'hommes et de femmes convaincus de l'innocence de Dreyfus fonde alors la Ligue des droits de l'homme. La Ligue intervient chaque fois qu'une injustice, un acte arbitraire, un abus de pouvoir lui sont signalés au détriment des individus, des collectivités, des peuples. La Ligue des droits de l'homme donc prend son départ à cette date. Un an plus tard, au printemps 1899, est créée l'Action française. Un manifeste publié peu après sa fondation présente ses positions idéologiques et politiques. L'institution essentielle est la nation. La valeur première pour l'individu est la nationalité. Il faudra à la France un régime nationaliste, antilibéral et autoritaire. Charles Maurras, le penseur éminent du mouvement, propose une monarchie d'un nouveau type, un gouvernement durable et autoritaire. L'État républicain, déclare le texte, est contrôlé par quatre États confédérés, l'État métèque, l'État juif, l'État franc-maçon, l'État protestant. L'État métèque, autrement dit, des étrangers. On remarque qu'une phrase à peu près identique a été prononcée lors de la journée des amitiés françaises en 1983. Ces vieilles traditions, on va les suivre dans l'histoire et dans l'après-guerre. C'est à cette époque que naît l'antisémitisme moderne, qui lie les préjugés religieux et économiques et que se développe la valorisation des idées nationales. On connaît depuis quelques 400 ans un anti-judaïsme religieux né au sein de l'Église catholique, accusant le peuple juif de peuple déicide. Mais il existe parallèlement un préjugé de couleur né avec la colonisation et l'esclavage moderne du XVIe au XVIIIe siècle, qui a son apogée au XVIIe siècle avec le fameux Code noir. Je ne sais pas si vous connaissez le Code noir, c'est un document effroyable qui légalise le statut des juifs. Et quand vous lisez le détail, c'est vraiment une exclusion, une domination par des supérieurs sous prétexte de leur donner une situation plus favorable et qu'ils les respectent un peu plus. J'aurais dû vous l'apporter. La législative de 1792 avait établi l'égalité des Noirs et des Blancs, mais Napoléon avait aboli le décret du 4 février 1794. Et il faudra attendre 1848 pour l'abolition de l'esclavage de la législation française. Au XVIIIe siècle apparaît en outre un racisme de classe. L'aristocratie serait de sang nordique. Le comte Henri de Boulainvilliers, dans l'État de la France, légitime les privilèges de la noblesse par son sang germain. Gobineau, dans son essai sur les races humaines et dans le roman de Manfredine, justifie le pouvoir des meilleurs de race aryenne. On commence à apparaître ce thème. Le XVIIIe et XIXe siècle connaissent une passion pour la science et la classification des espèces. Des auteurs en déduisent une hiérarchie des races humaines. Ainsi, Georges Vacher de La Pouge enseigne dans un cours libre de la faculté de Montpellier l'inégalité des races au bénéfice des Aryens de l'icocéphale. Dans l'icocéphale, vous savez, c'est la forme de tête allongée. Il donne ainsi un cours de craniométrie à la faculté de médecine. Et il déclare « aux fictions de justice, d'égalité et de fraternité, la politique scientifique préfère la réalité des forces, des lois, des races, de l'évolution. » Ce cours est supprimé en 1892, mais de telles théories vont inspirer la politique raciale d'Hitler. Des anthropologues, les biologistes ont lutté contre de telles dérives des sciences de classification qui ne prouvaient aucune hiérarchie des races. Mais aujourd'hui encore, certaines organisations extrémistes préconisent une biopolitique dont on a connu les terribles conséquences sous le nazisme. L'utopie des théoriciens des sciences des races avait des représentants en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Elle voulait créer une politique eugénique pour protéger le sang et la race. Les nazis avaient défini les critères des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Dans les lois de Nuremberg, vous savez, une définition, c'est vie qui ne valent pas la peine d'être vécue. D'où tout le développement des élimination des inférieurs, etc., des malades mentaux, qui va commencer à mettre en place les chambres d'euthanasie, etc., où va commencer à se formuler les premières petites chambres à gaz, etc. Un autre aspect pour comprendre le développement des courants fascistes en Europe, c'est la valorisation des idées nationales, voire nationalistes. Il va y avoir à ce moment-là toute une crise économique suite aux grandes dépressions des années 1870-80 qui provoque le retour au protectionnisme. Plusieurs nations d'Europe viennent de sortir des guerres d'unité nationale. L'Allemagne, l'Italie, les pays balkaniques. La France sort d'une défaite mutilante et elle souffre d'un déficit démographique qui provoque un appel à la main-d'œuvre étrangère, surtout italienne alors. Les empires coloniaux prennent de l'extension, d'où le désir de maintenir l'infériorité des peuples colonisés.
Excusez-moi, vous venez de dire, vous êtes trompé, la France sort d'une victoire, pas d'une défaite.
Pardon ?
70.
Ah, d'accord. Je pensais qu'on était à la défaite. Non, c'est bon.
D'accord. Revenons à l'antisémitisme moderne. Il est aussi lié au nationalisme. Le mot antisémitisme est forgé en 1880 par le polémiste allemand Marr dans un pamphlet dont la première édition principale est rééditée 12 fois en 6 ans. Les premiers congrès antisémites ont lieu en Allemagne. En 1899, le gendre de Wagner, Houston Chamberlain, dans Les fondements du XXe siècle, idéalise la nation allemande et il dénonce les juifs comme l'ennemi, car ils ne sont pas de sang allemand. L'antisémitisme nationaliste sévit aussi en Autriche et en URSS, où les gouvernements suscitent des pogroms, en particulier pour détourner les colères populaires dans les anciens territoires de Pologne, d'Ukraine, de Bessarabie. En France, plusieurs publications développent les thèses antisémites et nationalistes en cette fin du siècle, dont La France juive de Drumont en 1886 et le quotidien La Libre Parole qui commence à paraître en 1892. La grande montée des fascismes et mouvements nationalistes, racistes et xénophobes se produit au lendemain de la guerre 14-18. Dans les années 20 pour Mussolini, dans les années 30 pour Hitler, en France, quand vient la crise des années 30, le slogan « La France aux Français » est répété à l'unisson par de nombreuses petites organisations et par des publications haineuses, antisémites, xénophobes. On entend même à la Chambre des députés Pierre Amadieu Duclos lancer « Nous ne souffrons pas d'une crise de chômage national, mais d'une crise d'invasion étrangère. » Dans les documentaires Gringoire, Henri Béraud écrit en 1937 « Admire français moyen, admire tout à son soul, le beau cadeau que te fait l'univers, admire la guenille levantine, la pouillerie des ghettos, la vermine des Carpates et les terrorismes macédoniens. » À côté des paroles, les ligues ont choisi l'action de rue. Le 6 février, point culminant, réunit dans la violence les groupes de l'Action française et les camelots du roi.
34.
Le 6 février 34.
Les croix de feu,
c'est... Non, c'est 34. C'est 36, bien sûr, oui.
La ligue de la Roque.
dont les groupes d'Action française, les Camelots du Roi, le Francisme, la Solidarité française, qui sont des admirateurs de Mussolini, et pour certains d'Hitler, ainsi que des anciens combattants comme les Croix de Feu. Mais ce qui a été très important à l'époque, c'est que le Rassemblement populaire a contré tout ce mouvement. Le Rassemblement populaire, dont le comité national est présidé par Victor Bach, président de la Ligue des droits de l'homme, réunit les partis et les syndicats de gauche et un grand nombre d'organisations. Victor Bach, d'ailleurs, qui était le président de la Ligue des droits de l'homme, assassiné par la milice plus tard. Donc, union de cette gauche. La gauche est une forte tradition républicaine et démocratique. Elle empêche l'installation d'un régime de type fasciste en France. Et puis, le Front populaire va gagner en 1936. Bon. Et le gouvernement dissout les ligues. Mais les forces extrémistes se reconstituent, en particulier le Parti populaire français de Doriot, qui va rassembler une masse importante d'adhérents formant une extrême droite populaire, 300 000 en 1938. Doriot aurait pu devenir le dictateur pour la France. Il sait haranguer les foules, il est en relation avec le fascisme et le nazisme, et il existe un rassemblement anti-juif de France qui tient Métis en 1937. On y voit par exemple Henri-Robert Petit, le futur adjoint d'Arquette Belpois, commissaire aux affaires juives de Vichy, qui déclare que les juifs soient expulsés, qu'ils soient massacrés. Voilà, tous ces groupes, voilà la constellation, si vous voulez, de tout un noyau, avec des nuances divergentes suivant les groupes. Je dirais que les Croix de Feu étaient peut-être moins extrémistes. Et lors de la manifestation du 6 février, ils sont restés immobiles, alors que les autres groupes d'extrême droite ont reproché à la ROC de ne pas avoir avancé à ce moment-là. On a des données là-dessus. Il faut dire que Pétain va arriver. Pétain a été très marqué par l'Action française. Il aurait été possible, après l'armistice, alors arrivons maintenant à cette période, un régime qui aurait réglé les affaires administratives courantes comme le firent les Belges et les Hollandais. Mais là, les forces d'extrême droite vont pouvoir prendre leur revanche par rapport à 1936. Et ça va être une véritable révolution qui se met en route. Par exemple, Pierre Laval, avant de voter les pleins pouvoirs à Pétain, a tenu un discours qui éclairait sur le nouveau régime instauré pour reconstruire la France. Il dit, puisque la démocratie parlementaire a voulu gagner le combat contre le nazisme et le fascisme, qu'elle a perdu ce combat, elle doit disparaître. Un régime nouveau, audacieux, autoritaire, social doit être substitué. L'État français fut un régime autoritaire, policier, antisémite. Et on considère maintenant vraiment, quand il y a des débats, est-ce que le régime de l'État français était fasciste ou non ? Il y a une série d'ouvrages à ce point, là, qui discutent. Ce n'est pas un véritable fasciste, c'est un vieux conservatisme, n'empêche. Il a créé une police spéciale, la milice. Voyez, il a créé un tribunal spécial pour juger les condamnés, etc. Et il a installé la collaboration à une série de lois. Le régime de Pétain, en tout cas, sans être qualifié de fasciste, puisqu'il n'a pas eu réussi, malgré les efforts de Déa, à créer le parti unique. Et en dehors de ce point-là, c'est un régime fascisant, tout au moins, en tout cas autoritaire et très répressif, qui se va se mettre en place. De cet ensemble de données, on peut dégager les conjonctures à risque, les tactiques de ces mouvements, les thèmes qui font écho. et ceux dont j'ai reconnu les conséquences. D'abord, les conjonctures. Tous les spécialistes s'accordent sur les situations suivantes. Les crises liées à de profondes transformations des sociétés. Crise économique avec le chômage, très forte évidemment en Allemagne, etc. Les bouleversements sociaux qui génèrent des pertes de repères. Migration des ruraux vers la ville. Immigration d'autres groupes qui arrivent, nouveaux rapports entre les peuples, urbanisation, cassant la vie sociale, etc. La France est profondément bouleversée, mais tous les autres pays aussi subissent ces différentes crises. Il y a les humiliations nationales suite à la défaite, les crises d'identité, la quête de nouvelles identités, en particulier pour l'Italie. L'Italie est du côté des vainqueurs, mais elle n'en tire pas les bénéfices. Ce contexte engendre des nationalistes, des replis d'exclusion, ce qui n'a rien à voir avec un patriotisme ouvert. Les crises politiques, des instabilités gouvernementales, des affaires crapuleuses touchant des personnages politiques créent un dégoût de la vie politique. L'absence de formation civique et historique de la population, donc d'abord de la jeunesse scolaire. Les citoyens attendent tout du pouvoir, ils ne se sentent plus responsables. Mais en même temps, il y a une division des forces démocratiques et des partis qui se trompent de cible et ne savent plus s'unir. La présence enfin d'un leader charismatique qui regroupe les mécontents dénonce les problèmes de société de façon simpliste, en désignant des coupables, en suscitant la haine à leur égal, en proposant des solutions apparemment rassurantes, en fait régressif, en gommant les acquis sociaux, avec une vision fausse d'un passé idéalisé, mythique. Mussolini s'inspire des Romains, Hitler, les grands Germains, l'Ariens, etc. Bon. Tout ça, c'est ce contexte. On cherche une identité passée dans un mythe historique et on reconstruit un monde nouveau. On va construire un homme nouveau en se basant sur ce passé mythisé et assez faux évidemment. Vous avez également le rôle qui va jouer par la suite important des médias, déjà sous le nazisme. Kuchenberg avait négocié avec Hitler les films. Vous savez, à l'époque, on passait, avant les films, les nouvelles, l'information. Et là, il y avait eu un accord entre Kuchenberg et Hitler pour qu'ils passent les informations des grandes manifestations de Nuremberg, etc. Tout ce contexte-là. Alors, donc un climat de flottement, de bouleversement des classes sociales qui est très, très fort en Italie. Les couches populaires sont assez écrasées, etc. C'est des petites couches moyennes. Et là, je pourrais revenir un peu à ce qui se passe en Italie, ça me semble assez intéressant. L'Italie sort d'une guerre de tranchées. Les anciens combattants sont liés par la camaraderie du front, l'esprit de tranchée, qui prend l'aspect d'une mystique. Et ils subissent la justice des traités à l'égard de Paris, ce qui fait naître un sentiment de frustration chez les hommes qui se sont durement battus. Le nationalisme s'accentue, d'autant plus que l'Italie se sent la nation prolétaire de l'Europe. L'industrie lourde s'est développée plus tard que dans les autres pays occidentaux. L'expédition militaire de Tripoli, 1911-12, puis la Grande Guerre, l'ont orientée vers une fructueuse production d'armes que la paix risque d'interrompre. Les grands chefs d'industrie ont donc tout avantage à pousser l'État à une politique expansionniste. L'Italie comprend des régions très diversifiées, rurales au sud, industrielles dans le nord, et marquées dans l'ensemble par l'Église catholique, par ses valeurs traditionnelles. Mais un essor révolutionnaire très important se produit le lendemain de la guerre. Les ouvriers, les paysans luttent pour sortir d'une condition très dure. en 1919-1920, les ouvriers vont obtenir, à l'issue de nombreuses grèves et d'occupations d'usines, de meilleurs salaires, la journée de 8 heures, les contrats collectifs généralisés, une représentation au sein de l'entreprise. Les paysans réclamaient un avantage de terre qui leur avait été promis, un meilleur partage. Et faute de l'obtenir, ils occupent le sol. Les féodalités industrielles et agraires se sentent menacées par les conquêtes populaires. Leur autorité est ébranlée. Elles ont en effet été obligées de faire des concessions, mais elles voudraient reprendre en main la situation et revenir sur les acquis obtenus par l'ouvrier et les paysans. Elles s'allient et élaborent des programmes d'action. Il leur faut un bras armé pour mener des actions directes contre le prolétariat organisé. Elles s'adressent à des bandes armées parmi lesquelles existent les fascistes Mussolini. Donc vous voyez, l'armée, des groupes armés et puis des conflits de classe. La naissance de Mussolini, fasciste, a lieu au lendemain de la guerre. Il avait déjà créé en 1915 des faisceaux de combat. Converti à un socialisme national, d'où va naître le fascisme, il va mener une lutte particulièrement dure contre le socialisme et la gauche en général. En 1919, les nouveaux faisceaux se constituent et s'inspirant de l'esprit des tranchées. Mussolini, en tant que militant, a l'expérience du peuple. Il se réfère aussi à la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Il saura les séduire. Il va présenter le fascisme comme une religion en employant des formules plagiées sur les valeurs de l'Église catholique, primauté du spirituel, de la santé, etc., auxquelles le peuple italien était accoutumé. Il va être présenté comme un sauveur, l'homme présidentiel. Les forces et les appuis du fascisme sont issus de plusieurs milieux sociaux. Les bandes armées se regroupent en un front unique. Elles sont formées d'abord d'anciens combattants, des marginaux se sont joints à eux. Il existe beaucoup dans la période de guerre de crise économique de marginaux. Comme en Allemagne, les SA. On voit aussi des éléments, vous voyez. En Allemagne, il y a eu d'une part les dirigeants de l'armée qui se sentaient trahis, et puis des foules démobilisées, puisque l'armée n'avait plus le droit d'exister, qui va être cette base, vous voyez, flottante, marginale, et puis d'un autre côté, des groupes armés qui vont les rapprocher, les réunir. Nouveau thème, si vous voulez, aussi l'anti-bolchevique. Les bandes armées se regroupent en un front unique anti-bolchevique, formé d'anciens combattants et de marginaux. En Italie, on voit apparaître les Arditi, corps francs sur les champs de bataille. Ils vont regrouper une association qui reprend 20 000 membres. En 1920, des ligues anti-bolcheviques sont nombreuses. Des groupes armés, les Arditi, fusionnent et vont finir par devenir les faisceaux de Mussolini et les fascistes. Enfin, il y a des crises économiques, les conférences généralement. Le problème des classes moyennes. Elles avaient placé leur espoir dans le socialisme au moment de la guerre. Quand survient la crise économique, elles refusent de se prolétariser, de perdre leurs avantages sociaux. Ça, c'est tout leur pays. Quand les classes moyennes sentent qu'elles vont rejoindre le prolétariat et dans des situations difficiles, c'est une base de crise très importante. Et ça, on peut le sentir maintenant, je dirais, aujourd'hui. La montée du pouvoir du fascisme se fait par des voies apparemment démocratiques. En novembre 21, les fascis se constituent en parti fasciste. En décembre, Mussolini lance un mot d'ordre lors de ses conseils nationaux à Florence à la conquête du pouvoir. Le président du conseil, Giovanni Giolitti, un des principaux représentants de l'industrie légère, est un modéré. Il estimait qu'il fallait éviter la révolution en satisfaisant une partie des revendications des couches populaires. Par ailleurs, il voyait dans le fascisme un contrepoids au bolchevisme, puisque le parti était national. Il pensait pouvoir l'intégrer en un bloc national des partis gouvernementaux. Le fascisme était devenu une force dans le pays. Alors, le mieux n'était-il pas de lui donner une place dans le Parlement? Au printemps 21, Giolitti dissout la Chambre. 30 députés fascistes sont élus, dont Mussolini. Socialistes et fascistes citent un pacte de pacification. L'Italie est pacifiée. L'Italie, c'est long, vous voyez. En Allemagne, l'appel en 1933 de Hitler au pouvoir est quelque chose de plus brutal, de plus rapide. En Italie, il y a une longue marche progressive. En octobre 22, les grands industriels et leurs banques, aussi bien que l'industrie lourde que de politique légère cette fois, et les agrariens financent la fameuse marche vers Rome, qui a été un peu mitigée aussi. Leur marche démarre le 27, mais l'État abdique. L'armée laisse les fascistes occuper les édifices publics, entrer dans les casernes, fraterniser avec la troupe, s'emparer des armes. Le 29, Mussolini est convoqué par le roi d'Italie pour former le ministère, etc. Oh là. Le Parti communiste est fondé très tard. La CGT manque de maturité politique. Il n'y a pas une force de gauche très puissante en Italie à l'époque. Mussolini est dans la place. Comme la gauche reste puissante, il se montre prudent, il ménage les libéraux, il se propose seulement d'améliorer le libéralisme, de rendre le gouvernement plus ferme et durable afin de le sortir de l'agitation de la crise. 3 mois après qu'il a été appelé à former le gouvernement, il réussit, alors ça c'est son coup d'éclat, il réussit à faire adopter une loi électorale. Si un parti obtient la majorité avec au moins 25% des voix, il aura droit aux 2/3 des sièges. À ce moment-là, le parti fasciste n'a que 35 députés, se fait rassurer l'opinion. Aux élections d'avril 24, les libéraux font liste commune avec les fascistes. Ceux-ci ont la majorité absolue. Et c'est une étape longue, et progressive et assez à droite. Le 25 janvier 25, ça y est, Mussolini ôte son masque de libéral. Dans un discours qui marque le début du véritable régime fasciste, il précise son programme. L'appareil répressif se met en place. Les lois d'exception lui permettent de supprimer les libertés, de dissoudre les partis, les syndicats, d'éliminer les adversaires. Tout le pouvoir est entre ses mains, puisqu'il s'est donné celui de légiférer par simple décret-loi. La stratégie de Mussolini comprend donc 3 volets, la terreur armée, la voie électorale et le coup de dé final qui lui donne la majorité. C'est assez intéressant de suivre l'évolution de l'Italie. Bon, vous connaissez mieux la montée du national-socialisme en Allemagne, je pense. Je pense qu'on pourrait plutôt discuter un peu des suites, si vous voulez. Je ne sais pas par quel bout vous voulez prendre. Il y a tellement de choses. Alors, peut-être un mot sur la France. La France a vu se développer des groupes proches du fascisme entre les deux guerres. Toute une vieille droite conservatrice, xénophobe, antisémite, était toujours présente. L'Action française, d'abord, est un mouvement né au tournant du siècle après l'affaire Dreyfus. L'Action française sort ses bulletins et, dans un manifeste publié peu après sa fondation, il présente ses positions idéologiques et politiques. La valeur et l'institution essentielle sont la nation, pour les individus, la nationalité. Il faut à la France un régime nationaliste, antilibéral et autoritaire, une monarchie d'un nouveau type, un gouvernement durable et stable. Pour l'Action française, l'État républicain aboutira à la destruction de la France. On va retrouver les thèmes nationalistes de l'identité française, de l'enracinement dans notre sol, que Barrès célèbre avec lyrisme, etc. Ou voilà les écrits de Drumont avant la guerre, s'inscrivent dans la même ligne, avec un accent violemment antisémite. On rappelle le 6 février, etc. Les mouvements d'agitation qui ont précédé le 6 février étaient les plus actifs, étaient les Camelots du Roi, donc l'Action française, les Jeunesses Patriotes, groupe de choc de l'Action française, les Camelots du Roi d'entraîne les étudiants à faire le coup de poing parmi eux le futur avocat vichiste Jean-Louis Tichy-Vignantour. Maurras, patriote anti-allemand, se méfie d'Hitler, mais il admire Mussolini qui s'inspire de lui. L'Action française avait d'ailleurs été condamnée par le pape en 26, mais beaucoup de catholiques y militent. Nous avons les Jeunesses Patriotes, S'ils sont aussi entraînés en commando et portent uniforme. Elles ont été créées par Pierre Stettinger, député de Paris, en 24. Il s'agit d'une organisation paramilitaire qui défile en uniforme, bien entraînée en commando. Elle possède un organe national qui précise ses objectifs, défendre le territoire national contre les dangers de la révolution intérieure, c'est-à-dire les entreprises du communisme. La solidarité française est organisée en groupe de protection, de section d'assaut comme les nazis. C'est un mécène qui les a créés en 1933, François Coty. Marcel Bucard vient de créer le francisme, dont il veut faire un véritable parti fasciste en 1933, et qui suit, lui, le modèle de Mussolini. Il reprend les thèmes des Juifs, ces étrangers qui sont les maîtres de la France, il propose de le reprendre. Enfin, vous avez un ensemble de réunions. Oui. Il y a des journaux, Gringoire, Candide. Je suis partout. Il se présente au début comme l'organe d'expression maurassienne de la Restauration nationale. Il devient beaucoup plus virulent tout en gardant ses liens avec l'Action française. Brasilia, son rédacteur en chef, est rebatté. Un de ses journalistes importants sont aussi titulaires de rubriques de l'Action française, etc.
Moi, Marie-Jo, j'aimerais
oui.
qu'on vienne sur...
Oui, on va.
Sur, parce que le contexte que tu as décrit, la crise économique, oui. l'exode, l'urbanisation, etc., moi, je trouve que c'est comparable au contexte qui est vécu
oui.
Aujourd'hui.
Justement, quand on réfléchit sur ces thèmes-là, on voit avec inquiétude, du point de vue actuellement, d'un durcissement de tout le contexte politique actuellement et des régressions qui rappellent ce malaise. Il y a aussi, actuellement, nous avons cette crise politique des partis, de manque de division, d'éclatement, de manque de programmes solides. Nous avons la crainte des petites couches moyennes dont leur niveau baisse, même des salariés n'arrivent plus à vivre leur quotidien. Ils sont à la limite de basculer, enfin, des gens excluent leur logement, etc. Les petites classes moyennes sont touchées. Il y a des éléments qui sont assez comparables et inquiétants. Alors, l'extrême droite actuellement, qu'est-ce qu'elle représente, le Front National? Mais ce qui est plus vache, c'est beaucoup de si le Front National est affaibli, c'est parce qu'une partie de ses programmes ont été repris par le gouvernement actuel de Sarkozy.
Les parallèles, je trouve, comme histoire, ça peut être un peu fâcheux. Moi, je ne crois absolument pas à un retour de l'extrême droite. Tout ça, c'est...
L'extrême droite était beaucoup plus forte dans les années 80.
Oui, c'était plutôt un mouvement de contestation.
Oui.
Enfin, l'extrême droite ou les mouvements fascistes, c'est quoi? C'est une réponse. C'est une réponse à quoi? Une crise? C'est une réponse politique.
Oui.
Ce sont des mouvements idéalistes, ce sont des idéologies, ce sont des mouvements politiques. Ce sont des réponses. Ils offrent une réponse pour notre société. Nous, les gens vont adhérer plus dans les années 30. Ils y ont adhéré pourquoi? Pour trois raisons. Notamment, beaucoup plus pour l'Italie et l'Allemagne. Les autres, je connais moins, mais il y a eu trois ressorts du fascisme. Hein. Enfin, trois éléments qui ont été très porteurs du fascisme. Vous l'avez dit, il y a déjà le fait de la croyance en la science. Ça, c'est des fondements assez profonds, assez lointains. Idéologie qui n'est plus présente parmi nous. Ça appartient à une autre époque. Hein. Il faut savoir que quand Mengele faisait disséquer des jumeaux, il cherchait à savoir comment reproduire des blonds. Il ne connaissait pas la génétique. Mais il cherchait la génétique, en fait. Donc, on est dans un mouvement de la science qui est complètement, aujourd'hui, périmé. Alors, ça, c'est un ressort. Il y a un deuxième ressort, qui découle de ça, hein, de la vision sur les individus, sur les peuples, c'est le racisme. Encore que pas partout. Chez les Italiens, c'est pas aussi présent. Je n'ai pas souvenir, je ne crois pas que Mussolini ait été antisémite.
Il est très discuté actuellement.
C'est très discuté actuellement.
J'ai beaucoup lu. Au départ, on disait qu'il n'était pas antisémite. Bon, il avait dit à Hitler qu'il avait un tâche de thé, mais bon, il suivait.
Toujours est-il que
mais
les
moment,
Juifs...
Et
au fond, ils sont venus dans l'alliance avec voilà, Hitler beaucoup
fait,
plus.
Tout à fait, mais ce n'est pas intrinsèque au fascisme italien. C'est-à-dire que les Juifs ont été déportés à partir du moment où les Allemands leur ont demandé...
Il a déporté avant-guerre également la famille des Fizi Contini, si vous avez bien lu.
Oui,
certaines familles riches,
voilà.
Juives...
Donc, bah, c'est pas...
Oui, il y a eu des quatre très... Oui.
Non, mais c'est pas aussi marqué chez les nazis. Il y a un autre élément qui n'est pas absolument pas présent de nos jours et que les historiens ne marquent très très peu. Je suis assez surpris par ça. C'est que les gens qui ont participé au meurtre, etc., qui n'étaient pas seulement des SS, etc., ont tous connu deux chocs. Ils ont connu le choc de la crise, pour les plus jeunes. Ils ont surtout, pour l'essentiel, pour une grande majorité d'entre eux, ont connu le choc de la guerre. C'est-à-dire que c'était des gens qui ont été habitués à la mort et à la violence.
Pas les plus jeunes.
Donc, vous avez, pas les plus jeunes, mais... Pas les plus jeunes, mais dans les camps de concentration, l'âge moyen n'était pas jeune. C'était des gens qui avaient tous un certain âge.
Dans les camps de concentration, non. Dans les camps de concentration, vous parlez des camps nazis.
Oui, tout à fait.
Ainsi, les résistants étaient dans l'ensemble assez jeunes, en moyenne.
Non, je ne parle pas des résistants.
Des gardiens.
Je parle du système répressif.
Des premiers temps.
Les chefs de camp, les gardiens.
La plupart, vous regardez, vous avez un livre écrit par Browning ou un commando, je me rappelle, ordinaire, ou je ne sais quoi. Et ce qui surprenait l'historien, c'est que c'était des policiers ordinaires, c'est-à-dire des gens qui étaient...
Oui, mais alors là, vous pensez ce qui s'est passé dans le Browning, la police allemande qui aurait pu refuser de faire les crimes, mais qui finalement ont marché tout de même.
Oui, parce que l'obéissance...
Alors on aborde tout à fait autre chose.
Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des gens qui ont participé à des massacres, mais qui, psychologiquement, y avaient été préparés par la guerre. Ce n'était pas quelque chose d'insurmontable. Ce n'est pas comme l'époque d'aujourd'hui où on n'a pas connu la guerre, où ce sont des choses qui nous paraissent... qui sera un saut beaucoup plus grand.
Moi, je pense que...
Je veux dire qu'on ne peut pas le retirer.
Non, mais en tout cas, pour l'Allemagne, ce qu'il faut dire aussi, c'est que toute une jeunesse a été conditionnée. Les gens avaient subi la guerre, vous voyez, mais ceux qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, c'était des gens jeunes et qui avaient été endoctrinés pendant plus de 10 ans dans la Hitlerjugend, vous voyez. Et alors, l'idéologie de la supériorité de la race... d'hommes nouveaux, etc., ces gens ont été profondément marqués par cela et endoctrinés. Moi, je pourrais vous présenter ce film qu'on a sur cette pédagogie, vous voyez. On leur inculque l'idée qu'ils sont une espèce supérieure aux autres, vous voyez.
Oui. Alors ça découle.
Et tranche par tranche successive, quand ils arrivent les plus grands, les meilleurs qui ont été sectionnés par mesure de la tête, par la couleur des yeux, par tout ce que vous voulez, et par l'idée qu'ils sont supérieurs, on a exclu tous les autres. Et le petit noyau qui va être dominant va finir dans les lycées Adolf Hitler, qui font la SS, ils sont formés. Vous voyez, on pense toute une génération marquée, vous voyez, par ça. Alors, l'image de la guerre, c'est les parents, si vous voulez.
Oui.
Mais les parents, une partie d'entre eux, ont fait partie dans l'après-guerre de la gauche qui a été exclue, détruite, éliminée, etc. Vous voyez, une partie. Alors, j'ai. Un ouvrage fort intéressant, c'est l'appel du peuple allemand au peuple français. Des exilés sont venus en France et ont lancé un appel et on ne les a pas écoutés, vous voyez. J'ai ce livre passionnant, qui est passionnant. Donc, ceux qui sont, vous parlez de Browning, ces gens-là, c'était des gens qui sont tout de même plus jeunes dans l'ensemble. L'image de la guerre, c'est celle de leurs parents, tout de même. Sur 20 ans, ça change, hein.
C'est pas grand-chose, hein, maintenant.
Oui, mais tout de même, vous voyez, tous ces jeunes qui sont au front sont des gens jeunes, endoctrinés, mais les plus âgés, les militaires, vous voyez, et qui ne sont révoltés qu'à la fin. ont l'habitude d'une obéissance, une discipline terrible par rapport au chef.
Oui.
Ce culte de chef, vous voyez, qui les marque, c'est très germanique. Oui. Vous voyez, ce qui ne joue pas du tout pour l'Italie ou d'autres pays, vous voyez.
Tout à fait. Il y a un autre élément, alors, qui est vraiment le point essentiel par-dessus tout ça, ces mouvements d'extrême droite et de fascisants s'inscrivent vraiment dans l'entre-deux-guerres et ils sont surtout. Donc, vous avez dit les ressorts, bon ben c'est la Première Guerre mondiale, une certaine accoutumance avec une certaine violence, hein, corps fond, etc. La deuxième chose, bon ben c'est la vision de l'homme à travers le racisme qui découlait du 19e siècle. Une autre chose, c'est qui est typiquement allemand, c'est le pan-germanisme, le racisme, etc. Oui. En découle, hein, c'est typiquement allemand.
Et on est qui était au 19e siècle, c'est un vieux.
Oui,
ce sont des États qui se sont rapprochés.
Oui. Imprégnés.
L'unité, il fonctionne toujours par l'ordre. Enfin, l'unité n'est pas totalement réalisée.
Pas
vital,
ça a beaucoup de succès.
Bon, il y a aussi, dans ce pan-germanisme, alors là, c'est vraiment au niveau allemand, peut-être italien, mais je le connais beaucoup moins. Ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire allemande est une histoire récente. C'est-à-dire que leur unité s'est faite très tardivement.
Justement.
Elle s'est faite sur la base de la Révolution française.
Oui.
Hein,
Il est certain que si la France a évité d'avoir une dictature qui aurait pu être Doriot, par exemple, vous voyez, c'est parce qu'il y avait une tradition d'unité nationale, de puissance et de valeurs fondamentales qui était tout de même très inscrite par l'école, etc. Vous voyez, il y a une union, il y a une force.
C'est assez ancienne.
C'est ancienne déjà. Et une formation tout de même à la République. Une certaine fierté de la République française, qui avait gagné d'ailleurs en Europe, c'était une certaine image, mais qui était tout de même très force en France, et que pour les autres pays d'Europe n'avaient pas intégré du tout de la même façon leur unité, je voulais, était encore divisée. Mais ça c'est un aspect qui joue, mais il y a un aspect aussi, c'est que il y a cette recherche d'une identité qui est derrière pour l'Allemagne, grâce à Hitler, l'idéologie d'Hitler, et qui va faire l'unité autour du Führer, etc., et avec une force, une puissance d'endoctrinement qui est féroce. Il reconstruit une unité sur un mythe passé, vous voyez, de l'Aryen grand supérieur, etc., et qui est passé et futur, construire l'homme nouveau. Et alors, il y a quelque chose qui est très important pour l'Allemagne, c'est dans l'après-guerre, alors on saute carrément dans l'après-guerre, c'est que l'Allemagne a perdu ses colonies. Mais à partir de l'avenue d'Hitler au pouvoir, ils volent l'espace vital. Et ils vont faire leur colonie à l'est.
Oui.
Donc, il y a cette frustration et c'est le besoin d'espace vital. Et nous, les supérieurs, avec cette idée, on va dominer les autres peuples. Et quand on parle du nazisme, c'est un aspect qu'on ne voit pas suffisamment. On parle l'idéologie raciale, très, très puissante, mais aussi la puissance économique qui veut dominer les autres peuples. Et alors, l'histoire de la Pologne est atroce. Quand on voit l'occupation après, au moment de la guerre, enfin, l'élimination de tous les intellectuels, etc., vous voyez, et l'idée que ça va devenir un territoire colonisé. Donc on va déplacer les populations, on a éliminé les intellectuels, on fait travailler ceux qui peuvent travailler, et quand on étudie ce qui se passe actuellement, maintenant par les chercheurs en Pologne, c'est une histoire qui est atroce. Et ça, on le mesure peut-être pas assez, parce que les soviétiques d'un autre côté ont écrasé cette Pologne, vous voyez, et ce qui s'est passé avec le grand gouverneur, etc., Franck, c'est aussi l'enlèvement des enfants. Je ne sais pas si vous connaissez l'affaire. La Pologne pose un problème aux Allemands. Ils veulent coloniser ce pays. Mais il y a encore quelques racines germaniques valables. Donc on va trier la population. Il y aura trois niveaux de population. Il y a un groupe qui peut être germanisé, qui est bon. Et on enlève les enfants. On va les germaniser en Allemagne. Vous voyez. Et ça, c'est le niveau supérieur. Il y a le niveau mixte d'autres esclaves, et puis il y a le niveau bas, qui sont vraiment des slaves, qu'on va faire disparaître.
Je voulais...
Donc, l'aspect colonisation est un aspect dont on ne parle pas suffisamment. Cette domination de puissance qui doit s'étendre à toute l'Europe, c'est aussi l'idéologie hitlérienne.
Oui. Elle découle très certainement de l'élément le plus important de tout le débat, avant même le racisme, etc. Et c'est pour ça que ça s'est tellement épanoui à cette époque-là, hein, dans les années 20, dans les années 30, le fascisme, que vous n'avez pas assez, je trouve, vous n'avez pas assez insisté dessus. Si je devais faire un cours, c'est la première chose sur laquelle j'insisterais. C'est le rempart. Mais c'est le dernier, on peut garder le meilleur pour la fin. C'est le meilleur, c'est le rempart contre le communisme.
Oui.
Le nazisme,
naturel.
Le fascisme n'existe pas sans le communisme.
Mais ça pour tous les autres régimes fascistes aussi.
Tout à fait. Tous ces mouvements.
C'est tellement évident que c'est la première base, que ce soit en Italie, en Espagne, ou pas, tous les pays, c'est l'anticommunisme fondamental.
J'irais même plus loin. Les Américains n'ont pas vu d'un mauvais œil l'arrivée du... ne sont pas opposés, non, politiquement, pas seulement les Américains, hein, mais même comme Pilsudski, par exemple, avaient une entente avec Hitler.
Bien
ils
sûr.
S'entendaient bien.
Et
on pourrait penser qu'ils sont...
Et certains flottements, même de l'Angleterre. Enfin,
tout à fait.
Jean Berlin était pro...
Oui.
Parce que
pacifiste, soi-disant, et poème.
On voyait le nazisme comme un rempart, c'est le fameux cordon sanitaire.
Hein. Oui. Ça a joué.
Il est très probable que si nous avions été au milieu de l'Europe, nous, Français, les choses se seraient passées très différemment. C'est qu'il faut bien voir que les bolcheviks étaient à leur porte, aux portes des Allemands. Ils avaient une frontière. Il y a un autre élément qui a joué par rapport à cet esprit de supériorité, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, bon, il y a eu le fameux mystification, une sorte de mensonge, un mensonge sur le coup d'épée et le coup de poignard dans le dos, qui a été propagé par l'état-major allemand en disant que l'armée allemande avait été trahie par l'arrière.
Oui, on a l'impression d'être trahi. Mais d'ailleurs, Hitler a été formé au début dans des groupes d'anciens officiers prussiens.
Tout à fait.
Le Parti national-socialiste est né dans ce petit groupe.
Mais il faut se rappeler que l'Allemagne a perdu la guerre en Occident. Elle l'a gagnée en Orient. Elle l'a gagnée sur le front russe. Alors, dans l'esprit des militaires allemands, c'est quelque chose qui est passé très très difficilement. On est arrivé à une sorte de statu quo sur le front occidental, mais sur le front oriental, les Allemands ont occupé toute l'Ukraine.
Oui, mais alors ça si vous voulez, ça, c'est, on saute une génération encore, on est dans l'après-guerre.
Si vous voulez, dans l'esprit des Allemands, les peuples qui sont soumis par les bolcheviks, judéo-bolcheviques, hein, puisque il y a une
confusion entre le judéo-bolcheviques,
oui, mais qui est réel pour la Russie, hein, les élites communistes étaient très souvent juives, pratiquement toutes.
Oui, mais vous retrouvez alors quelque chose qui est important actuellement, c'est les théories de Nolte, la banalisation, etc. Actuellement, depuis une vingtaine d'années, c'est pas du négationnisme, c'est du relativisme allemand.
Oui, mais comment...
Non, mais c'est un autre sujet, si vous voulez, on peut en parler. Mais
savoir, les gens étaient sûrement sensibles à ça. Donc ça a été porteur dans le discours de propagande.
C'est-à-dire qu'il y a...
On va tout simplement dos à dos, les fascistes, les nazis, et puis d'autre côté, tous les mouvements d'émancipation populaire. Parce que le fascisme ne s'oppose pas au communisme, il s'oppose à tout mouvement d'émancipation populaire.
Oui,
c'est sa caractéristique. Et c'est pour ça, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal, ils regroupent effectivement des élites économiques industrielles, des latifondistes, donc qui sont des propriétaires terriens extrêmement conservateurs et qui ont évidemment comme souci de conserver la mainmise sur tout l'appareil agricole, enfin, c'est comme ça. Là, j'ai l'impression que votre raisonnement, il est en train de nous amener tout simplement à nous dire, bon, bah, finalement, ouais, bon, le fascisme, le nazisme, c'était pas très bien, mais enfin, vous comprenez, c'était légitime, c'était justifié.
Non, ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que les gens ne l'ont pas vu comme je vous le décris?
Ah, mais chacun cherche les justifications, y compris les historiens ou ceux qui se croient.
Mais oui, ils sont très, très divisés actuellement sur ce qu'on appelle le fascisme. Mais il y a le problème des petites classes moyennes qui me semble, pour l'Allemagne en tout cas, quelque chose qui a été très, très. Ce sont ces gens qui ont voté pour Hitler plus que les coups de chaud polaire. Contrairement à ce qu'on a créé, les dernières recherches, je ne sais pas si vous connaissez un livre très intéressant, c'est de Dominique Vidal, Les historiens allemands relisent la Shoah. Et qui, je vous le recommande, qui est tout à fait intéressant. On le trouve aux éditions Complexes, qui montre finalement l'électorat, l'électorat, ces petites classes moyennes. Et finalement, Hitler s'est arrangé pour que l'Allemagne ne souffre le moins possible. Il pillait tous les pays autour, mais les Allemands ont assez peu souffert de l'alimentation, etc., pendant longtemps.
Parce que les produits du pillage arrivaient en Allemagne.
Oui, ça arrivait en Allemagne. Donc il a essayé de préserver, en particulier, ces petites classes moyennes, tant qu'aux classes populaires, la révolte était plus possible. Enfin, les gens qui ont protesté au début, avec Rosa Luxembourg, les Chouins, etc., cette gauche divisée, vous voyez, et cette situation là n'avait pas un support populaire très fort en même temps et qui a été très vite écrasé, et les petites classes moyennes ont été rassurées par l'avenue d'Hitler au pouvoir. L'industrie d'armement leur a redonné du travail, etc.
Ça, c'est peut-être ce qui nous rapproche de la situation actuelle, parce qu'on sent bien que la paupérisation des classes moyennes, c'est un phénomène extrêmement dangereux en termes de régression de la démocratie.
Bien sûr.
Justement, je pense que si on essaye de voir un peu les différences de situation entre cette époque entre deux guerres et puis la Deuxième Guerre mondiale et puis l'époque d'aujourd'hui, je crois qu'il y a un élément, je dirais, géostratégique important, de différence importante, c'est qu'à l'époque des années 30, le monde est structuré par la rivalité d'États-nations, d'empires. En fait, c'est ce qui structure le monde. Aujourd'hui, c'est pas ça qui structure le monde. Aujourd'hui, ce qui structure le monde, c'est la compétition des multinationales. Les États étant pratiquement, dans bien des cas, au service de cette compétition des multinationales. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on vit une régression de la démocratie. Je crois que dans tout le monde, en France par ailleurs, il y a une vraie régression de la démocratie. Mais je n'ai pas l'impression que ça nous conduise à une évolution de type fasciste, comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire, je dirais, une dictature, des grands partis de masse, etc. Je n'ai pas l'impression qu'on revivra ça.
Je crois qu'il faut sortir des années 30, contrairement à on a demandé de parler des années 30. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Et je voudrais évoquer les dictatures d'Amérique latine et le rôle des Américains et de la CIA. Alors, je pense qu'on a vu, on a fait le tour des années 30, on sait un peu ce qui s'est passé. On a encore des débats d'historiens, mais en gros, on sait à peu
Vous
près.
Vous n'avez pas cité les mouvements fascistes aux États-Unis, mais il y a eu un parti nazi.
Oui, il y a les partis nazis aux États-Unis, et avec Lindbergh, entre autres, qui les soutenait, etc. Bon. Mais je pense que c'est depuis ce qui est quelque chose de très important, c'est ce qui s'est passé dans toutes les dictatures d'Amérique latine. Les coups de force, parce qu'il y a eu le Paraguay, il y a eu le Chili, il y a eu l'Argentine, etc., tous ces pays, où il y a été justement des mouvements populaires de masse, et quelque chose, l'aspect économique, les protestations, etc., qui ont renversé Allende, etc. L'histoire, là, est très parlante, vous voyez, et a installé de nouveaux fascistes, mais aussi par peur d'anticommunistes, ça vous avez tout à fait raison, mais avec le soutien important d'un CIA. On le sait maintenant, et même, alors, on a maintenant, puisqu'on parle de choses plus récentes, et je pense que c'est là qu'il faut qu'on regarde ce qui s'est passé, même chez les colonels grecs, on a actuellement la preuve de l'appui de la CIA pour les installer, etc. Et alors, on est actuellement dans une toute autre période, vous avez raison, si vous voulez, par rapport aussi au mouvement de population mondiale. des immigrés qui arrivent, etc. On a des brassages de population qui apportent un phénomène tout à fait nouveau. Le sous-prolétariat, c'est plus la classe ouvrière actuellement, c'est les migrants. Et il y a des mouvements de... Donc, je crois qu'il faut regarder ce qui se passe là. Et en tout cas, ce qui s'est passé pour la décolonisation, parlant pour nous, l'Algérie, entre autres, ce qui s'est passé avec les phénomènes de Loraes, etc. Vous voyez, tout ce qui s'est passé.
Jusqu'à une tentative de putsch.
Le putsch qui a été plus ou moins raté, dérisoire, etc. Mais des liens qui ont existé à ce moment-là, puisqu'une partie de Loraes s'est trouvée au Portugal. On l'a retrouvée quand, après la révolution des œillets, vous voyez. Et c'est devenu... la situation à Alger est devenue un modèle d'entraînement pour la CIA, etc., pour l'Amérique latine. C'est ces phénomènes-là, je dirais, qui seraient plus intéressants peut-être que les années 30 encore.
Parce qu'il y a une grande différence.
Oui, en Allemagne, excusez-moi, les entreprises capitalistes, les grosses entreprises ont soutenu Hitler.
Oui.
Alors qu'elles n'étaient pas spécialement antisémites ni racistes. Oui.
Mais alors, si vous voulez...
Il a servi au pouvoir, quand même.
Elles ont aidé... Un peu moins qu'on l'a cru, mais en fait, tout de même, c'est important. Ils ont écrit à Hindenburg pour permettre à Hitler d'arriver au pouvoir. C'est vrai qu'il y a eu un certain appui à la fois des grandes entreprises, qui ont bénéficié d'ailleurs de tout le système par la suite, vous voyez, les médias qui ont été dans le coup, etc. Tout ça, ça joue. Vous avez raison, oui.
Mais... Ils ont profité ensuite des travailleurs des camps pendant la guerre.
Oui, bien sûr.
Comment s'appelait-il,
c'est tout un mécanisme. Les grandes entreprises ont utilisé la main-d'œuvre de STO et des Peurtés, etc.
Et enfin, c'était une forme de propagande extraordinaire de Goebbels. Goebbels, c'est un génie. Il faut reconnaître. Hein. Oui. Mais, extraordinaire.
Mais je pense qu'essentiellement, entre les mouvements d'Amérique latine et européens, du moins Italie, Allemagne, Espagne, je pense qu'il y a quand même une différence essentielle. Ce ne sont pas des mouvements très populaires en Amérique latine. C'est vraiment appuyé par l'étranger, par la CIA. Ce ne sont pas des lames de fond comme vous avez eu en Europe, où ce sont des mouvements vraiment sociaux, enfin populaires.
Je pense que les classes populaires étaient moins impliquées tout de même. Des tentatives de lutte populaire, mais qui ont été écrasées complètement. Parce qu'il y avait une puissance armée et il y a un puits derrière.
Et la sociologie de ces pays-là est quand même très, très différente, hein, je pense.
Il ne faut pas oublier que les dirigeants américains qui ont soutenu, et qui ont plus que soutenu, qui ont inspiré le coup d'État de Pinochet au Chili, avait en tête le fait que l'expérience d'Allende au Chili était un très mauvais exemple pour l'Europe, et en particulier pour deux pays en Europe, l'Italie et la France. Et l'intervention de la CIA au Chili avait en particulier cet objectif, qui était de décourager toute tentative de pouvoir populaire, en plus populaire démocratique, venant au pouvoir par les élections. Et l'intervention américaine avait en partie cet objectif, de décourager toute tentative de ce genre-là dans deux pays qui leur semblaient particulièrement importants en Europe.
Et il faut dire d'ailleurs alors que dans ces dictatures, vous avez retrouvé un certain nombre de SS.
Oui.
De nazis qui ont pu échapper et qui n'ont pas été jugés, qui se sont retrouvés là-bas. Il y a quelques capots au Chili, par exemple, avec Pinochet, il y a la fameuse Dina, sa police. Il y avait un certain Walter Rauf qui était très actif, qui était un des initiateurs des chambres à gaz ambulantes. Oui. Il y avait la Comunidad Unitad avec Schaeffer, etc. Et alors, il y avait eu une tactique des nazis d'implanter dans des grandes fermes, régions rurales, etc., des biens, des richesses du nazisme et une immigration qui existait déjà avant. Voyez, il y a donc eu des liens, c'est pas si coupé qu'on ne le croit, qui ont existé à ce moment-là.
vous avez parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé en Pologne. On a moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que ça a été quand même tout. C'était le bazar. C'est-à-dire que chaque responsable. On a l'impression, je ne sais plus qui soutient ça chez les historiens allemands, on a l'impression qu'Hitler donnait des impulsions et puis que les satrapes faisaient ce qu'ils voulaient dans leur domaine, tant qu'il plaisait au Führer. Et vous avez deux exemples très contradictoires dans la gestion de la Pologne. La Pomerélie, c'est-à-dire en dessous de Danzig, qui était gérée par Foster, et le patelin d'à côté, qui était la Poznanie, ou le Partegau à cette époque-là, qui était géré par Greiser. Ils ont géré ça, ils ont géré la germanisation, comme ils appelaient, de ces lieux, d'une manière complètement différente. À savoir que...
Il y avait le grand plan, vous avez le grand plan.
Oui, enfin, qui bon, géré par le plan Ost.
Il y avait le grand plan qui fonctionnait pour l'ensemble, et puis il y a eu Franck, entre autres, qui a fait les différentes régions.
Oui, le grand plan, c'était encore un autre. Général SS, tous ils se faisaient.
Oui, il y avait des disputes entre groupes, bien sûr, chacun gérait à sa façon, mais il y avait tout de même une directive générale qui était le grand plan, et qui limitait, par exemple, je vous dis des choses en ce qui concerne les jeunes, l'enfant, en classe, il n'y avait plus de formation d'enseignants, de professeurs, c'était des traités qui faisaient la classe, ils avaient le droit à deux années de classe simplement pour savoir lire et écrire, c'est tout. Il y a une série, on a des documents, par exemple, du point de vue des calories. Des calories données, c'est quelque chose de monstrueux. Il y a un livre sur l'enfant polonais, quel était leur enfer. Enfin, c'était quelque chose d'effroyable. L'application, ce grand plan, c'est assez précis.
Oui, j'intervenais sur la remarque que vous aviez faite de la germanisation des enfants, etc. À savoir que
les petits
Foster
coups.
A germanisé à tour de bras sans même faire de recherche généalogique. Greiser a expulsé. Ils ont eu des...
Il y a eu des déplacements de population.
Tout à fait.
Certains ont déplacé.
Les Polonais ont été rejetés dans le gouvernement général.
Oui,
alors
mais...
En Pomerélie, ils ont été complètement...
Mais tout dépend aussi de ce qu'ils estimaient de population qui était valable.
Oui, mais chacun avait son idée.
Il
n'y avait pas une idée précise.
Mais il y a eu tout de même une directive générale venant de Berlin directement, qui était le grand plan, et que chacun appliquait à sa méthode suivant les régions.
Voilà.
Mais enfin, c'est simplement pour introduire le régime particulier, c'est-à-dire l'aspect économique de la domination allemande. On parle beaucoup l'aspect hiérarchie des races, c'était exclusion, etc. Mais cet aspect-là est déplacement de population ou extermination en partie ou sélection que suivant chacun. Vous voyez, mais c'est tout de même une grande dimension économique essentielle à rappeler, avec une domination donc dont le pillage des différents États qui ont permis à l'Allemagne de souffrir un peu moins la population. Ils ont souffert terriblement à la fin quand ils se posent en victime aujourd'hui, vous voyez, par rapport au bombardement, etc., par rapport au bombardement de Dresde. Mais pendant longtemps, ils ont accepté parce qu'ils étaient une situation relativement viable.
En fait, c'était une sorte de pari pour Hitler. Il s'est lancé dans une sorte d'aventure folle et il n'a pas préparé. Le pays n'a commencé à se préparer à la guerre, ce qu'ils ont appelé, ce que Goebbels a appelé la guerre totale. À partir de quand?
Oui.
À partir de 1943, c'est vrai, trop tard. Non, trop tard pour une guerre de cette dimension.
Il ne voulait pas,
les Allemands, les Gauleiter et Hitler lui-même, ne voulaient pas que les Allemands souffrent de la guerre, de pénurie.
Pour pouvoir continuer à soutenir le régime.
Tout à fait. Et puis parce que la guerre 14 avait démontré l'inverse, c'est-à-dire que la pénurie avait mis le pays à genoux.
Oui. Aujourd'hui, j'ai écouté justement une émission de la Science au Carré qui parlait des expériences anatomiques, enfin, sur ce qu'ils appelaient le matériel humain, et disaient qu'après la guerre, les médecins qui avaient pratiqué ça sont restés en place en Allemagne.
Oui, j'ai écouté.
Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler un peu? Les médecins qui ont pratiqué ces expériences anatomiques sur, entre guillemets, du matériel humain,
oui,
sont restés en place dans les hôpitaux.
Oui, alors, vous savez qu'après, il y a eu le procès Nuremberg, mais il y a le procès des médecins par la suite. Le procès des médecins, effectivement, il y en a peu qui ont été qui sont très sanctionnés, qui se sont retrouvés. Et là, c'est une le sujet si vous voulez, dans les camps, on était des choses, des objets. Et l'expérimentation, il parlait des tziganes. Vous avez l'émission des tziganes également. Et là, par exemple, je peux vous dire qu'à Ravensbrück, ils ont stérilisé des petites filles, etc., tziganes. Et je me suis trouvée devant lors du procès du commandant du camp, qui disait comme à Nuremberg, non coupable, etc., ordre supérieur. Et quand j'ai parlé des expérimentations sur les petites filles tziganes, il m'a répondu, il est presque souriant, il m'a répondu, oui, j'ai fait stériliser des enfants et des femmes dans mon camp, et vous savez, je l'ai fait aussi sur des hommes, ce que nous ne savions pas. Mais enfin, comprenez, c'était les tziganes. Ça, c'était l'exploitation totale de l'être humain, ça, c'est la caractéristique du système nazi.
Je peux comprendre, l'antisémitisme, on dit ce sont les juifs qui prennent l'argent, donc bon. Mais les tziganes, qu'est-ce qu'ils avaient contre les tziganes?
Alors, il y a eu d'ailleurs plusieurs catégories de tziganes. Voilà. Parce qu'il y avait certains, il y avait les Roms, il y avait, etc., plusieurs catégories de tziganes, et il y en avait qui étaient peut-être d'origine arienne, puisque venant d'Inde. Il y a eu certains tris dans certaines régions, quelques tziganes qui étaient acceptés comme race venant d'Inde. Mais autrement, il y a eu une première étape par rapport aux tziganes, et ils les ont mis... En France, ils ont été dans des camps d'internement. Il y en a très peu déportés de tziganes de France. Hein. Il y en a très peu. Mais dans l'Europe centrale, il y en a eu des masses de quantité. Et les gens regroupés dans un camp spécial à Auschwitz, en famille. Puisque ils n'étaient pas considérés comme une race aussi inférieure que les juifs. Mais il y avait plusieurs catégories de tziganes. Voyez.
Oui. Ils expliquaient qu'ils voulaient justement cet après-midi, ils expliquaient qu'en fait, justement, oui. L'idée c'était de prendre une famille entière de façon à ce qu'ils ne puissent plus après se reproduire, qu'il n'y ait plus de possibilité qu'ils de.
Mais alors, ils ont fait des camps un camp spécial. Des tziganes à Auschwitz où ils étaient en famille. Oui. Mais alors, ce qui s'est passé, une chose assez horrible, c'est qu'il y a des enfants, ils crevaient de faim, pour autant, hein, et les enfants ont atteint d'une maladie qui s'appelle le noma. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une maladie qui existe dans les pays de grandes familles, en Afrique. Il y a des ulcérations du visage, comme ça, vous voyez. Et alors là-dessus, des médecins nazis passant là, et dont Munch et d'autres, enfin, vous voyez, on dit, mais c'est ignoble, ces gens sont vraiment des êtres inférieurs puisqu'ils sont incapables de s'occuper de leurs enfants. Et puisqu'ils sont incapables de s'occuper de leurs enfants, tout le monde au gaz, et ils ont tout liquidé le camp. Et voilà comment l'histoire ça s'est passé là, on le connaît. Parce qu'ils estimaient qu'ils auraient été considérés comme asociaux. C'est-à-dire, dans les camps, il y avait une catégorie, les triangles noirs, asociaux. Ils ont été assimilés aux asociaux, incapables d'occuper de leurs enfants. Et à ce moment-là, la solution, c'est de garder tout le monde. C'est le camp tzigane a achevé comme ça, Auschwitz. Et le pourcentage de survivants, finalement, dans l'Europe centrale, a été 5% à peu près, voyez. Tziganes était extrêmement forte. Avec un début, je vous dis, des étapes successives. En Ukraine, il y avait des groupes, ils ne savaient pas très bien s'ils étaient de bonne race ou pas. Enfin, c'est une histoire très compliquée. Mais le résultat final, dans le groupement des familles tziganes d'Auschwitz, ça s'est terminé, comme je vous dis, par liquidation, parce qu'ils étaient inférieurs, marginaux, et donc incapables de s'occuper des enfants. Alors, chaque histoire, vous voyez, on peut le voir. Mais les médecins nazis, en tout cas, il y a eu une série de... Il y en a quelques-uns. Mais alors, à ce moment-là, j'évoquerai aussi, si vous voulez, mais c'est tellement vaste, ce qui s'est passé au Japon. Le procès de Tokyo. Où il y avait une unité spéciale d'expérimentation qui travaillait sur la guerre bactériologique. Il y a eu une négociation avec les Américains. Si vous donnez vos informations, les informations, et eh bien le fameux médecin en question, moi j'ai tout le dossier, voyez, on ne sera pas condamné à cause de ça, si vous nous donnez les résultats. Et les Américains se sont justifiés après en disant, sans ça, ces informations sur le gabarit auront été pour les soviétiques. Alors chaque histoire est...
Comme les savants...
Il y avait une question, je crois.
Oui, enfin, une observation, et puis pour relancer une question derrière. Donc, j'étais venu à une sorte de réunion exposée là, sur la montée des idées fascistes en France et en Europe, de l'entre-deux-guerres, donc c'est ce qu'on a déjà traité, il me semble, à nos jours, et cette partie-là, il me semble, pour l'instant, est peu éclairée. On a bien compris que les ressorts, les trois principaux ressorts, n'avaient plus lieu de corner d'inquiéter les populations actuelles. Et du coup, on s'est un petit peu enfermé dans l'analyse de l'époque passée, ce qui est certainement nécessaire pour éclairer aujourd'hui. Mais justement, est-ce qu'on peut éclairer, et quel est votre point de vue, puisque vous avez connu toute cette période-là, avec ce qu'on a lancé, là. Quel est votre éclairage, ou quel est votre point de vue, les parallèles éventuels que vous tissez entre la période que vous avez vécue et que vous connaissez parfaitement, et puis la période contemporaine, quelle est la motivation finalement qui vous a amené à répondre présente, je dirais, à la demande de la FJC pour traiter ce thème-là avec donc la deuxième partie qui est donc à nos jours.
C'est quelque chose de très vaste et très complexe, mais la période actuelle est une période aussi d'incertitude. On l'observe avec beaucoup d'inquiétude. On se repère avec les étapes passées, mais si vous voulez, il y a des choses nouvelles dans la période actuelle. Et puis, il faudrait faire à part la place de l'Allemagne au milieu de tout ça, comment elle se situe par rapport à toutes ces histoires. Voilà. Je vous parlais au début de cette histoire des doubles totalitarismes et de la situation complexe de la Russie actuellement, vous voyez, et de l'attitude de l'Allemagne aujourd'hui. C'est un autre monde, parce qu'on assiste à toutes les époques, il y a eu des périodes de migration, de mouvement, mais on n'a plus le même prolétariat, le même sous-prolétariat, etc. Vous voyez ? Et on a une classe moyenne, petite classe moyenne, qui est en état dangereux, ce qui a toujours été alors quelque chose d'inquiétant, vous voyez. On a une gauche qui n'est pas solide et qui est divisée. Et ce sont aussi des critères que l'on retrouve comme... avec d'autres types de populations, mais tout de même des grands mouvements, vous voyez. Et puis, surtout le phénomène mondialisation, je vous dis, la Banque mondiale, etc., ces phénomènes par rapport à un changement d'échelle totale.
Quelle pourrait être la réponse des gens, des petites classes moyennes dont vous parlez, liées, qui ont perdu leur pouvoir d'achat, qui vont perdre plus, les fameux retraités qui vont se trouver encore avec des retraites encore plus basse qu'actuellement. Donc, quel serait le type de réaction? Est-ce que ça pourrait être un fascisme ou au contraire un anarchisme ou,
Ça peut être les deux, parce que...
Les deux,
oui.
Les deux éventuellement, oui. En même temps,
nous avons une ultra-gauche qui est contre eux aussi, qui existe, qui a existé avant, qui était la guerre sociale, etc. Toutes les formes d'État aboutissent au fascisme, etc. Les analyses qui peuvent être aberrantes ne sont pas toujours absolument fausses.
Ça pourrait cohabiter dans le même pays, en fait.
C'est-à-dire qu'on ne voit plus cette ultra-gauche en Allemagne, où elle a disparu, on ne la voit plus en Italie, où elle a été très forte à un certain moment, le Parti communiste avait
tout. En Italie, tout s'est fondu. Enfin, tout est... Le MSI est devenu parti gouvernemental, etc. Ouais. Alors, ils ont d'autres phénomènes en Italie. L'aspect régionalisme est très fort. Il y a la rupture entre la Ligue du Nord, par exemple, qui se considère comme des industriels, et les exclus du Sud. Ça, c'est encore chaque pays a ses particularités. Mais alors, maintenant arrivent aussi en Italie les migrants en quantité. Ce qui rajoute aux difficultés, c'est vrai, du Sud, qui est déjà des régions de pauvreté, etc. Les gens du Sud commencent à migrer vers les zones industrielles du Nord. Donc, premier vague d'exclusion, et maintenant arrivent des migrants. C'est encore le double phénomène qui se passe
pas
là-bas.
C'est forcément eux qui iront vers une révolte. Enfin, moi, je n'analyse pas ça. C'est rarement migrants, avec tous les problèmes qu'il peut avoir de logement, de papier et du reste, qui qui va fomenter une possibilité de révolte. Moi, je verrais plutôt ça dans des gens qui sont en train de perdre justement leurs avantages. Enfin, moi, je pense à tous ceux qui se font délocaliser, les sociétés qui ferment. Voilà. Donc, je ne sais pas si le grand capitalisme se rend bien compte des implications qu'il va y avoir, au moins dans la société française. Je ne sais pas pour les autres Européens, mais au moins pour la société française.
Le grand capitalisme va pouvoir survivre et survivre jusqu'à présent, et c'est même renforcé.
Il se renforce, justement.
Le droit de gagner partout. Un personnage comme Berlusconi est élu démocratiquement plusieurs fois. En Italie, qui est un pays pourtant où le peuple est intelligent, il dit intelligent et artistique.
Il y a des gens qui...
Mais bon,
ils sont quand même élus. D'accord, mais il n'y a pas que des votants, il y a aussi les autres.
Mais il y a un phénomène mondial, que sont les pays émergents, vous voyez, avec le cas de la Chine, vous avez le Brésil, la Chine, l'Inde, le Brésil, on est dans un contexte qui se situe au plan mondial différent. Avant, on avait des groupes européens, c'est très difficile.
Ce que je vois, c'est que, je ne sais pas, mais au fur et à mesure, alors, on écoute pas mal, il y a pas mal d'émissions en ce moment sur ces choses-là. Par exemple, les Américains qui gagnent cartographie, donc des ressources pétrolières dans les océans. On achète actuellement des concessions, au-delà d'ailleurs du domaine des eaux territoriales, il y en a qui se permettent de vendre des concessions alors que ça dépasse leurs eaux territoriales. Il y a un droit international de la mer qui apparemment, on ne leur demande rien, sauf pour des histoires de pêche. Mais les choses importantes, par exemple les Américains qui sont en Angola, là, alors ils ont leurs croiseurs militaires qui sont là et qui en font que du pétrole. Voilà, et il est vendu, hein, quand même, bien sûr. Ça, chacun voit son intérêt, mais justement, donc là-dedans, on se demande par rapport à tous ces enjeux, qu'est-ce que les États-nations font, qu'est-ce que les politiciens peuvent faire, en fait. Même M. Obama, d'ailleurs, en fait, c'est pas lui qui va diriger tout ça, finalement.
Ah non, il est placé par eux.
Oui, enfin, non.
Voilà. Il a moins de pouvoir que chez nous, à chose.
On s'est réjoui de l'élection d'Obama, mais il est arrivé dans une situation extrêmement complexe et difficile.
Et il a été placé par les financiers.
Mais comment il peut, par exemple, empêcher des méthodes de requins comme ça?
Mais il n'est pas là pour ça, il est fait. Oui, il est là pour.
Ça peut fomenter les révoltes, parce que les gens, maintenant, ils communiquent par Internet. Toutes ces choses-là sont suivies.
Ils s'en fichent.
La culture américaine n'est pas comme la nôtre.
C'est ça, révolutionnaire. Je ne parle pas des Américains révolutionnaires, je parle des gens qui reçoivent ce type d'informations.
Ils s'en fichent, ils vivent dans leur monde.
Moi, par rapport. Pour revenir au sujet, moi, j'aurais bien aimé, Marie-Jo, personnellement, un éclairage par rapport aux idées négationnistes. Actuel.
Oui, alors aussi des négationnistes, on a énormément de données. Enfin, là, je vous signale qu'il y a le bilan, c'était le bilan 2006, mais ça va ressortir, je l'ai réactualisé pour actuellement, vous voyez. Et bon, c'est une vieille histoire, il s'appelle le relativisme, etc., mais... On a des étapes successives. Ce que il me semble plus grave de toute l'aspect récent, d'une part, c'est les médias sur Internet. Vous avez tous ces réseaux. Par exemple, l'Institute for Historical Review, qui est américain, diffuse des documents mondialement. Voyez, nous avons en Belgique le VHO. Sans concession, qui est un groupe assez puissant, qui diffuse dans toute l'Europe du Nord toutes les informations négationnistes. Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce qu'il nie ? Il nie la réalité des chambres à gaz. Parce que, comme le courant de Nolte en Allemagne, etc., relativise les choses. Et c'est-à-dire que Hitler n'a fait que répondre à Staline. Bon. Donc, à ce moment-là, il s'agit de banaliser le nazisme en disant Hitler n'a pas fait plus de crimes que toutes les autres, que Staline, le Goulag, que le Cambodge, que ceci, que cela, que avant, toutes sortes de crimes qui ont été faits par le colonialisme, etc. En plus, il a rajouté les chambres à gaz. Comme un détail, d'où le terme détail utilisé par le Front National, par Bruno Gollnisch, etc. Vous voyez, parce que c'est ce qui caractérise, au fond, le massacre de masse. Et alors, ils disent, au fond, est-ce que c'est plus grave d'être gazé que d'avoir une balle dans la tête, etc. Donc, minimiser. Donc, le négationnisme justifie cette réhabilitation du nazisme en disant, au fond, il y a toujours eu des crimes, il y en aura d'autres, etc. Et en éliminant ce qui est le plus spécifique, c'est-à-dire la mise à mort en masse d'un groupe entier, ethnique, les juifs et puis les tziganes. Alors ça, il faut le minimiser pour rendre possible les autres crimes.
Et est-ce que cette idée a une influence du coup sur la montée du fascisme actuel, enfin de nos jours, s'il y a une montée des idées fascistes,
est-ce que les idées fascismes, est-ce qu'on peut parler des fascistes là, c'est une certaine façon de situer. Je pense que le terme fasciste n'est plus applicable. Oui, autrement, c'est toujours quelque chose qu'on peut requalifier, étant dans quand renaît une dictature dans un autre pays, etc. Tout ce qui se passe en Afrique. Vous voyez, il y a des régimes dictatoriaux, etc. Il y a des crimes atroces qui se produisent. Moi, je réfère plutôt par rapport au crime contre l'humanité, tel qu'on l'a défini à Nuremberg. C'est le crime contre l'humanité, au fond, c'est le noyau fondamental. Alors, s'applique assez bien dans le fascisme, mais pas spécialement, vous voyez.
Mais... À ce sujet, en parlant de crime contre l'humanité, vous avez dit en préambule que ça existait avant. Vous croyez que ça avait été créé pour le...
Oui, alors le crime contre l'humanité, le tribunal de Nuremberg a défini le crime contre la paix, le crime de guerre, le crime contre l'humanité. Mais le crime contre l'humanité date donc de la période de ça a été déclaré par l'ONU, etc. Et au tribunal de Nuremberg, vous voyez, on a universalisé les droits de l'homme, etc. Mais quand on peut regarder l'histoire en disant, mais ce crime a existé avant et existe depuis. Il y a eu par exemple, le terme de génocide n'a pas été utilisé, n'a pas été défini à Nuremberg. Il a été défini avant et repris. Le génocide, mais enfin bon.
Oui. Mais là, c'est une discussion philosophique. Oui. Le droit, c'est pas de la philosophie.
Mais alors, si vous voulez, crime contre l'humanité, les traitements humains et dégradants, etc., tout ce qu'on est ressorti, vous voyez, c'est quelque chose qui a pu se retrouver, on constate avant tout, les lois. Est-ce qu'il fallait dire que l'esclavage était un crime contre l'humanité? On peut le considérer comme tel, mais on ne peut pas appliquer une loi sur une génération qui est disparue. Vous voyez, mais l'analyse de ce qu'est un crime contre l'être humain, on peut le trouver avant et après.
Oui, bien sûr.
C'est la définition juridique et le constat. Oui. Le constat. Et tout ce qui a été commis à l'Inquisition.
Parce qu'à ma connaissance, c'est la seule loi qui est un non-sens. Juridiquement, c'est un non-sens, qui est rétroactive, qui a été rétroactive puisqu'elle n'existe pas.
Oui, malheureusement, alors le crime de guerre est prescrit en France, mais pas dans d'autres pays.
Ah, mais c'était un tribunal international, alors.
Mais actuellement, bon, alors, on en va. La Cour pénale internationale qui a été créée, bon, avec des tribunaux spéciaux depuis, qui se mettent en place. Ça, c'est l'outil juridique.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est autre chose.
On est jugé en vertu de ça.
Et alors, si vous voulez, il y a eu le crime contre l'humanité. Et ça a été appliqué depuis. Il y a eu au Rwanda, dans l'ex-Yougoslavie, c'est à la cheval du crime de guerre. Bon, il y a...
Ils ont oublié cela. Ça n'a intéressé personne.
Pardon ?
Le Cambodge, ça n'a intéressé personne. Ça.
Il y a le procès. Mais alors, la grande difficulté du procès en cours, c'est que maintenant, il est jugé par les... Ce n'est plus un tribunal... Enfin... Le tribunal est un tribunal de Cambodgiens, et le problème, il y a tellement d'individus impliqués qui sont devenus des personnages du régime que c'est absolument ingérable.
Excusez-moi, je vais poser une question.
On a tout de même jugé quelques personnes et puis ils se repentent et ils se retrouvent en place. Oui.
Excusez-moi, j'ai posé une question.
Mais alors, il y a...
C'est pas révisionniste, hein, quand on définit le crime contre l'humanité, on compte le nombre de personnes tuées ou est-ce que c'est quoi le crime contre l'humanité dans la définition?
C'est quoi la définition juridique, on va dire, du crime contre l'humanité?
Oh ben, y a une définition, c'est j'ai plus le terme exact, je n'aurais pu l'apporter, on a tous les dossiers là, le réduction en esclavage. Et alors attendez, parce qu'il y a eu deux choses, il y a la première définition, et après, quand il y a eu la notion a été étendue non seulement aux victimes, c'est au moment du procès Barbie. La notion a été étendue. Parce qu'au début, ça portait uniquement sur des victimes au nom d'un groupe ethnique, etc. Et après le procès Barbie, on a étendu et à ceux qui défendaient, aux résistants, enfin, qui ont pu lutter contre ce régime oppressif. Voyez. Parce qu'il se trouvait, par exemple, que dans le procès Barbie, il y a eu dans des convois des juifs et des résistants dans le même convoi, etc. Donc, on a réclamé que ça soit appliqué à ceux qui ont lutté contre l'idéologie oppressive, etc. Que ceux qui produisaient. Donc, c'est élargi à d'autres groupes. Ce qui était un problème. Parce que...
Pour tout, là, c'est plus précis.
Oui.
C'est devenu pour tout. Ça tient.
Il y a la torture, il y a la déportation, c'est tout ça.
Le mode opératoire, il y a le nombre de personnes. Peut-être parce que c'est un groupe ethnique qui est visé. Est-ce que c'est ça, toutes les définitions du crime contre l'humanité?
J'entends bien.
Je n'ai pas compris.
Est-ce que la définition du crime contre l'humanité, c'est la quantité de personnes tuées, le fait que ça soit un groupe ethnique?
Est-ce que la définition du crime contre l'humanité, c'est la quantité de personnes tuées, le mode opératoire, le groupe ethnique? Il n'y a pas de quantité de personnes tuées?
Non, c'est une définition. C'est un traitement, si vous voulez, que je n'ai plus la définition.
Vis-à-vis d'un groupe ethnique.
Oui, quand même.
C'est de l'action systématique vis-à-vis d'un groupe ethnique.
D'un groupe ethnique humain, l'individu ou l'appartenant à ce groupe.
Ouais.
Et alors,
je pense qu'on pourrait revenir à la question que monsieur avait posée.
Mais ça, vous apporterez les documents là-dessus. Là, je ne les ai pas ici. Là.
C'est la question contemporaine, quand même, je pense qu'elle est importante, parce qu'elle nous concerne tous les jours. Si j'essayais d'apporter quelque chose, bon, je ne crois pas que le modèle de pouvoir fasciste, ce soit un modèle qui réponde aux besoins de l'époque, je dirais aussi crûment que ça. Je ne crois pas que ce soit un modèle qui corresponde aux besoins des classes dirigeantes de l'époque. Mais donc je crois que la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui menace la démocratie aujourd'hui?
Oui, voilà.
Et je crois qu'on a tous des exemples qui doivent nous venir en tête. Enfin, quand on voit, par exemple, mettre en cause la séparation des pouvoirs, quand on voit régresser le pouvoir de la justice, la soumettre aux politiques, quand on voit un discours anti-intellectualiste, anti-culture, quand on voit exciter la l'identité nationale, l'identité nationale.
Oui, mais
quand on voit exciter de...
Oui, mais en même temps,
quand on voit exciter l'hostilité des gens à l'égard des étrangers, de groupes étrangers, quand on voit, par exemple, des Roms qu'on évacue de commune en commune, tout pas ici, enfin, regarde, dans notre département, là... je crois qu'on...
Il y a un certain nombre de mécanismes d'exclusion qui sont quelque chose de régressif. Il y a des pertes d'avancée. Je vous donne un exemple très précis. Par exemple, par rapport aux droits de l'enfant.
Voilà.
La Convention internationale des droits de l'enfant était quelque chose qui était très important, 29 ans, 89, qu'on commémorait, etc. Et on avait créé un poste, la défenseur des droits de l'enfant. Mmh. Eh bien, c'est un poste qui vient d'être supprimé.
Il y en a eu deux, oui.
Alors, sur le plan économique.
Il y a une série de points sur lesquels on peut mettre le doigt de régression des droits démocratiques.
Sur l'école aussi, sur la formation des enfants.
Sur le plan économique et social.
Alors, il y a des
réductions. Plus d'histoire.
Alors, par exemple.
On compromet la démocratie parce qu'on compromet les conditions d'exercice du droit.
On est en régression par un certain nombre d'acquis importants. Je parle même du point de vue alors fonctionnement de toutes ces réductions de postes. Les fonctionnaires, est-ce qu'on va maintenant pouvoir les supprimer les postes?
Et puis suppression de dispositifs qui étaient là pour aider par exemple les enfants en difficulté à l'école, c'est-à-dire les enfants. Ça, c'est très très grave. Comme la défenseuse des enfants, c'est extrêmement grave parce que c'est les futurs citoyens qui sont touchés là.
Oui, alors, à une série d'endroits, moi j'ai travaillé sur cette convention professionnellement, vous voyez, on a travaillé à faire des avancées pendant 20 ans et on voit que c'est saqué une série d'endroits. Le problème, par exemple, de supprimer l'histoire dans les sections scientifiques en termes
de. La philosophie a failli être touchée, l'économie,
il y a des.
Sur la touche, les profs d'économie sociale, leur programme a complètement changé. Il faut voir ce qui se passe sur des points comme ça dans l'école, dans le lycée,
Par rapport au droit acquis depuis 20 ou 30 ans, on a systématiquement des suppressions qui montrent une régression vers un état, je dirais,
totalité. La nuance de l'Europe et des directives européennes, il y a quand même un certain nombre de fonctionnaires qui doivent être supprimés. Bon, alors à partir de là, par exemple, il y a un chiffre qui est, je ne sais pas, on disait 30 000 ou je ne sais plus combien, enfin. Bon, donc c'est ça aussi.
C'est pas l'Europe qui
est. Non, ça c'est
l'Europe qui demande la suppression des fonctionnaires. Hein.
Donc si je suis votre raisonnement, dans un pays où il y a moins de. Excusez-moi, si dans un pays où il y a moins de fonctionnaires, c'est un pays dictatorial, c'est ça
que
une série de régressions progressives d'acquis de notre démocratie.
C'est pas pour autant qu'on n'est plus. Attendez, en Angleterre, vous avez moins de fonctionnaires, l'Angleterre aussi libre que la France. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est déjà une liberté. Parce que ce que vous me dites tout à l'heure, bon, il y en a qui dénoncent ici et ça, sur les Roms ou je ne sais quoi. Bon, on est d'accord,
c'est pas d'accord. C'est quoi de ce qu'on veut, toujours.
Mais.
C'est quoi de ce toujours.
Non, vous voulez le faire croire. Parce que maintenant, vous avez Internet. Hein, sur Internet, vous trouvez quand même, les gens peuvent s'exprimer.
On peut même répondre à travers le monde.
Monsieur, c'est en tout cas la vie des gens qui s'expriment, et je crois qu'ils ont le droit de le dire.
Et alors, ça change quoi?
C'est vrai
que si on perd tout ce qui est service public, par exemple, moi je suis très impliquée dans une mutuelle, c'est de l'économie sociale. C'est d'ailleurs pour ça que la France a résisté un peu plus à la crise, c'est parce qu'on a un système d'économie sociale qui est phénoménal. Mais les mutuelles sont en train d'être bouffées par des taxes, des surtaxes. Les mutuelles, c'est nous. C'est nous. C'est-à-dire que tout ce qui est économie sociale, si nos enfants, nous ne les formons plus avec de la philosophie, de l'histoire, du sport, puisque tous les cours de sport, tous les postes ont été diminués de 2/3 ces dernières années. Donc, s'il n'y a plus tout ça, comment va-t-on former nos enfants?
Je comprends, mais si on pousse à l'extrême, l'URSS, c'était le paradis. Moi, c'est ça, pas du tout. Si on pousse votre raisonnement à l'extrême, tout était service public.
Je ne connais pas l'URSS, je n'y vis pas. Moi, je vis dans une France où il y a le Conseil national de la résistance qui a créé.
Non, mais
je pense qu'on va essayer de donner la parole à Marie-Jo pour conclure un petit peu sur le sujet.
C'est lié à la démocratie.
S'il vous plaît, on va laisser la parole à Marie-Jo.
Non, je crois que ce qui est peut-être analysé. C'est ne pas me dire c'est fasciste, non, c'est on ne peut pas dire. Mais par rapport à une avancée de la démocratie, à la formation civique des jeunes, à toute une série de secteurs, on assiste à des régressions. Je dirais, est-ce que c'est autoritaire? Enfin, d'une décision qui sont prises sans qu'il y ait suffisamment d'ailleurs de débats parlementaires, vous voyez, et qui me semble assez inquiétante, pour la France en particulier. Maintenant, on est dans un contexte extrêmement difficile, puisque tout est mondialisé. Il y a des puissances contre lesquelles il faut avoir conscience de leur force et savoir comment ça fonctionne. Je pense à la Banque mondiale, etc. Il y a une grande misère, il y a une grande pauvreté, etc. Tous ces phénomènes sont importants. Et face à ce malaise général contre les gens, contre lesquels les populations ont l'impression d'être impuissants, vous voyez, c'est là qu'il peut y avoir des mouvements de pris en main. Heureusement, on n'est pas sans force, mais par quelqu'un qui saurait canaliser ses efforts pour se replier sur un nationalisme étroit, vous voyez, et des durcissements de lois d'exclusion de plus en plus dures, etc. C'est un mécanisme d'ensemble assez complexe, mais qui n'est pas sans danger. Je pense qu'on ne peut pas analyser ça avec les outils qu'on avait jusqu'à maintenant, et c'est un phénomène assez nouveau.
De ce point de vue-là, on a parlé de l'Europe tout à l'heure. Je crois qu'on vit justement dans les pays de la communauté européenne une situation qui est particulière de ce point de vue-là, de ce sentiment d'impuissance politique. Parce que, bien entendu, dans la construction européenne, elle s'est basée sur un abandon de souveraineté des États membres. Et ce qui est critique dans la situation, c'est que cet abandon de souveraineté à l'Union européenne ne s'est pas compensée par un gain de souveraineté au niveau de l'Union. Parce que chacun sait que l'Union européenne est une structure totalement antidémocratique. Enfin, la démocratie ne s'exprime pas. Alors on élit bien des députés à un Parlement qui ne fait rien parce qu'il n'a aucun pouvoir. Du coup, il y a la montée de ce sentiment d'impuissance. Je veux dire, enfin, une fois que les décisions sont prises à Bruxelles, alors, non, il faut rappeler à Bruxelles, elles sont prises par les dirigeants des États membres. Mais on vit de plus en plus dans ce sentiment d'impuissance qui est assez dramatique.
Et puis moi, l'impuissance, j'aurais même sur le manque d'ennemis contre lequel il faudrait se battre. Enfin, je sais pas, quand on avait
c'est pas politiquement correct.
Quand je peux juste finir deux secondes. Quand on. Enfin, par rapport au fascisme, par rapport aux personnes qui sont entrées en résistance, les gens sont entrés en résistance par rapport à un modèle, à quelque chose, à un ennemi qui était visible.
Oui, mais.
Le temps actuel, je trouve que c'est un temps sans.
C'est pour ça que ça existe. Sans ennemi. Pourquoi, actuellement, tu as des partis comme le NDA qui sont donc. L'ennemi, c'est le capitalisme. Voilà, c'est ça. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils trouvent d'autre? Ils ont personne. Les puissances financières, tu peux même pas arriver à les chevaux, il est tellement compliqué là-dedans, de toutes les relations entre les pays. Pour ces transactions financières, c'est effectivement mondial. Donc, voilà, entre qui il se bat contre le capital, entre lui-même.
Mais
c'est ça, justement.
Si vous voulez, moi ce que je constate, c'est que les mouvements d'idées extrême droite plus que fascistes, dans tous les pays, et que ce soit dans le passé des années 30 ou aujourd'hui, ont toujours trois points successifs. On dit, premièrement, on est en danger. On est en danger, on est en train de perdre notre identité, d'où cet effort pour l'instant. Cette situation est grave, on se sent en pleine insécurité. Bon, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, qui sont les responsables? Alors là, les groupes extrême droite, les étrangers, les migrants, les exclus, on désigne un certain nombre de cibles.
Les politiques.
Et c'est également, alors ça peut être avant, c'était les communistes, il n'y a plus grand chose, bon, mais des penseurs, on disait les intellectuels de gauche, etc. Bon, et la troisième étape, voilà, il faut retrouver nos racines, nos identités nationales, notre existence personnelle. Et nous regrouper autour d'une personne. Avant, on disait d'un chef, c'était l'époque. Bon. Actuellement, on ne voit pas beaucoup ce chef. Mais ce mouvement existe encore et peut se redévelopper. Dans les années 80, il y a eu le Front National, Parti des Forces Nouvelles Avant, etc., des groupes qui pouvaient catalyser cela. Maintenant, ils sont très limités. Le Pen est vieillissant, Marine Le Pen... Bruno Gollnisch sait les mots qu'il ne faut pas dire pour faire tomber un jugement qu'il a condamné. Le procès est récent. Il vient d'être blanchi, je ne sais pas si vous êtes au courant. Enfin, nous, la Ligue et d'autres groupes l'avaient fait condamner pour des propos de négationnistes caractérisés. Voyez, par exemple, quand à Lyon, il y avait eu une série de groupes d'extrême droite infiltrés. Bruno Gollnisch était un de ses professeurs et il a fait des déclarations. Alors, il y a une enquête menée par un historien Rousseau qui a montré ces groupes. On a épuré la situation. Il y a des jeunes qui ont été très actifs, les jeunes d'Hippocampe, car la jeunesse souvent est capable d'être très dynamique. Vous voyez, bon. Et on avait fait condamner. Alors, il avait fait une déclaration en disant que Rousseau, l'historien, était un historien sérieux, mais pas sûr vu ses origines juives. Bon, là-dessus, on le fait condamner. Bon, ben, comme il n'a pas mis le mot qu'il faut, on vient, en cours de cassation, le jugement a été cassé. Donc, on se trouve dans des outils que ces groupes extrémistes savent détourner en disant le mot qu'il faut pas, voyez. On a donc des difficultés pour l'action de ce genre de... Bon, ça c'est un problème. Bon, actuellement, il n'y a pas un parti ou autre qui regroupe ces genres de tactiques. Mais il y a cet extrême malaise général et des forces qui sont derrière. Je ne crois pas du tout au danger de le Front National ou autre, mais à des régressions des acquis démocratiques qui créent un malaise... Et contre lequel, comment est-ce qu'on peut agir? Alors, je pense que les grandes rencontres sur l'écologie, etc., internationales, essayent de faire avancer. Et puis, que ce soit au plan économique, Rio, toutes ces conférences-là. Bon. Mais on a l'impression que ça se termine soit en queue de poisson, soit que les forces dominantes, les grands moyens d'argent sont derrière et dominent. Alors, comment agir? Eh bien, moi, je crois à la force des groupes de la société civile, à des ONG, et à des groupes d'action qu'il s'agit de remobiliser, donc par petits groupes ou plus largement. On est dans un moment qui a besoin de sentir ces forces-là qui existent par moment. Vous avez un certain nombre, dans le moment, des grandes manifestations. Ce qu'il y a, c'est que ça souffle et ça retombe. Mais il y a tout de même un certain nombre d'organismes qui sont là, qui veillent et qui, à chaque fois, se manifestent et protestent. Quand il y a des grandes colloques internationaux, ils sont à côté souvent et ils sont capables de marquer le coup. Alors, je crois que c'est le seul espoir qu'on a actuellement pour éviter toutes ces régressions. Peut-être des petits groupes ou peut-être des mouvements plus larges et généraux. Les étudiants sont capables de manifester fortement, des catégories professionnelles. Quand les usines ferment, les gens manifestent, etc. Toutes ces forces de protestation sont tout de même là. Et je crois que l'action de la société civile peut faire des contre-pouvoirs pour faire progresser. Peut-être que faut que ça prenne corps plus, que l'on approfondisse ces questions, peut-être... Est-ce là qu'on peut espérer quelque chose, voyez?
J'ajouterais que dans la durée, on a besoin de l'éducation populaire.
Oui, vous avez raison. C'est des petits groupes comme ça, voyez. Il y en a à beaucoup d'endroits. Alors bon, par rapport à l'analyse du fascisme, c'est une vieille histoire, mais il y a des noyaux, des racines. Et alors moi, je vais vous dire ce qui est le plus fondamental au niveau les pires, c'est-à-dire des grands crimes, que ce soit les génocides, les massacres, etc., qui continuent à se produire dans différents pays, etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun au-delà? Moi, je dis, le noyau fondamental, c'est quand des hommes sont capables de dire à d'autres hommes « Toi, tu n'appartiens pas à la même espèce que moi. » Et quand c'est de telles idées, de vieilles idées d'un parti, d'un mouvement, et gagnent le régime. À ce moment-là, c'est très grave, vous voyez. C'est ce qui peut unir tous ces mouvements de protestation. C'est ce que j'appelle, moi, le noyau fondamental. Et puis une conscience. Il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, après l'horreur de tout ce qu'on a vu, etc., on a créé l'ONU. Bon, c'est tout de même une force sur laquelle on peut s'appuyer. Il y a eu la Déclaration universelle de droits de l'homme, un grand principe. Mais par la suite, un certain nombre de textes qui faisait avancer les droits de l'homme, que ce soit l'égalité des sexes, que ce soit le refus du racisme ou des traitements inhumains dégradants, etc. Il y a une série d'étapes petit à petit qui sont posées. Le tout, c'est de les soutenir, de les connaître, de les faire connaître aux jeunes, d'assurer une formation civique solide. Je crois que c'est les seules armes que nous avons actuellement pour pouvoir éviter la dégradation, cette déliquescence auquel on assiste. Je crois que c'est l'espoir qu'on a.
Faire connaître le programme du Conseil national de la résistance.
Et alors, le programme du Conseil national de la résistance, c'est une base avec des choses qui étaient d'époque, qui peuvent évoluer, mais qui est une base qui reste quelque chose.
Quand on voit en particulier ces revendications vis-à-vis de la presse, quelle est la situation de la presse aujourd'hui, tenue par trois marchands de canons et marchands de béton.
C'est quand même... Alors, le 1er avril, on va diffuser un film sur Walter, retour en résistance, qui est sur le Conseil national de la résistance et les pertes et tout ce qui est en train d'être cassé. De nos jours, c'est le 1er avril, jeudi 1er avril.
Je pense que si dans les années 30, la France a évité d'avoir une dictature, c'est parce que les Français étaient solidement attachés à un certain nombre de principes démocratiques de la République, de valeurs fondamentales, etc., qui étaient enseignés dans les écoles solidement, et on était capable de ne pas se faire embarquer, vous voyez. Ben, je pense que c'est ces repères-là qu'il faut qu'on retrouve aujourd'hui dans cette période si floue, vous voyez. Je crois que c'est l'action qu'on peut mener par petits groupes ou plus largement. C'est ça les repères fondamentaux. Et que l'éducation, ça joue bien sûr, mais la formation civique des jeunes, les petits groupes, cette conscience, elle est là, cette conscience. Et il y a toujours eu dans l'histoire, vous voyez, des groupes qui ont été là, ou des individus pour dire non. Et pas seulement dire non, mais dire voilà ce qu'on veut comme autre monde.
Ouais. Surtout l'alternative.
Je pense que c'est ce qu'on peut faire. C'est l'espoir actuellement pour aujourd'hui.